Vous écoutez RTL. Première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous. On est très heureux de vous retrouver dans votre, dans notre cabinet de curiosité. Comment ça va, Sidonie?
Ça va très bien. Ouais. On échappe aux gouttes de pluie en étant enfermé dans ce studio. J'espère que vous faites pareil, tout près de votre transistor.
Il manque le feu de cheminée dans un coin de la pièce, mais sinon, c'est pas mal.
Je peux vous en dessiner un sur le mur.
Allez, c'est parti. Alors, le programme.
On vous raconte l'histoire du mariage secret de l'écrivain Romain Gary et de l'actrice Jean Seberg. Ils se sont dit oui dans un petit village corse. C'était le 16 octobre 1963 et personne n'a été invité à la fête. Pourquoi? Comment a-t-il pu être organisé dans une telle indiscrétion, ou plutôt discrétion? Quel a été le roman d'amour de ces deux stars? On lèvera plein de mystères dans la curiosité.
Et puis donc, on vous fera découvrir l'un des hommes les plus riches de France, Xavier Niel, le patron de Free. Il a fait fortune grâce au Minitel Rose avant de passer quelques semaines en prison et de devenir un géant de la téléphonie et des médias.
Allez, après la pluie, la glace.
La curiosité est un vilain défaut.
François Michel continue ses repérages au sol. Ils vont remonter la mer de glace afin d'en observer les transformations récentes.
RT.
Témoin de ce retrait, ce bloc de granit, aujourd'hui entièrement dégagé.
Ah, c'est énorme! C'est des milliers de tonnes! T'imagines l'éboulement, là?
Jusqu'à 22h.
Souvent, quand on parle entre nous comme ça en montagne, on dit des pianos à queue. Ils tombent des pianos à queue.
Ça veut dire qu'il vaut mieux pas être en dessous.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Alors que l'on recherche la chaleur du printemps, notre invité aime le froid. Son dada, ce sont les glaciers qu'il arpente depuis plus de 50 ans. Bonsoir, François Michel.
Bonsoir et merci de m'inviter.
Alors, moi, ça m'inquiète un peu. Vous voyez des pianos à queue descendre du ciel. C'est le vin du marcheur qui vous fait dire ça?
Voilà, exactement. Non, ce sont des grands morceaux de granit quand on est dans le massif du Mont Blanc ou parfois de calcaire dans d'autres régions qui se détachent avec le gel et les variations de température et qui s'éboulent soit tout seul, soit en même temps que les avalanches en hiver et qui viennent s'accumuler sur le glacier où ils constituent des amoncellements de gravier, de gravats et de gros morceaux.
Et ça ressemble parfois à des pianos à queue.
Ah oui, tout à fait, ça peut être énorme et faire des dizaines, voire des centaines de tonnes.
François Michel, votre terrain de jeu, il est où?
Eh bien, au niveau de la montagne, il est principalement dans le massif du Mont Blanc et puis de temps en temps dans l'Himalaya aussi.
Il y a beaucoup de glaciers dans cette zone, dans le Mont Blanc?
Ah, il y a beaucoup de glaciers, oui, tout à fait. Il y a énormément de glaciers.
Il y en a qu'un,
c'est la mer de glace. Ah ben non. Il y en a beaucoup. Déjà, quand on est à Chamonix dans la vallée, on voit des langues glaciaires qui descendent un peu partout, à Tacona, les Bossons, la mer de glace, et puis plus loin, le glacier d'Argentière, le Tour. Donc comme ça, si on fait le tour du Mont Blanc, il y a entre 20 et 30 grandes glandes glaciaires. Et puis après, si on comptabilise tous les petits glaciers qui sont un peu accrochés aux parois un peu partout, alors là, il y en a des centaines.
Alors avec vous, on va essayer de mieux comprendre ce que sont ces glaciers et comment ils ont sculpté aussi notre paysage, nos paysages, grâce notamment à votre dictionnaire illustré de géologie que vous publiez chez Belin. Allez, question de base, c'est quoi un glacier?
Eh bien, un glacier, c'est un fleuve de glace. Mais dans ce fleuve, plutôt que l'eau d'y être liquide, elle y est solide et elle s'écoule doucement ou plus ou moins rapidement, selon les régions du monde, vers le point le plus bas, donc dans la vallée quand il s'agit des glaciers alpins.
Donc c'est de la neige qui s'est compactée, accumulée d'une certaine façon?
Voilà, c'est de la neige. La neige, c'est déjà de la glace. Donc ces cristaux de glace de neige se compactent, et en se compactant, cela chasse l'air, et petit à petit, ils se restructurent, ils recristallisent, et ils vont donner, à partir de cristaux indépendants, cristaux de neige, eh bien de la glace compacte, qui dans un premier temps a encore une certaine quantité d'air emprisonné et qui peu à peu, bien sûr, va perdre l'air et se compacter totalement.
Ça veut dire qu'il faut forcément être à une certaine altitude pour avoir un glacier, évidemment.
Pour connaître un glacier, il faut être au-dessus des limites des neiges éternelles et que ces neiges restent, s'accumulent en quantité, ne fondent pas en été, en paroi sud par exemple, et vont progressivement se tasser. Que les pentes soient susceptibles d'accumuler des masses importantes dans une sorte de bassin d'alimentation.
Est-ce que ça veut dire que le Groenland, par exemple, est un glacier?
Alors, le Groenland est un territoire couvert par des glaciers, une calotte de glace au centre et puis des langues glaciaires qui partent vers la périphérie sur des kilomètres.
Alors, pourquoi tout ça, c'est différent? Calotte de glace, langue glaciaire, c'est quoi la différence?
Alors, la différence, eh bien, c'est un problème de masse et de quantité. Disons que la calotte glaciaire fondamentale sur la planète Terre, c'est celle de l'Antarctique. Et là, sur un continent aussi grand que l'Australie, entièrement couvert de glace, sur 3 kilomètres de glace d'épaisseur en moyenne ou à peu près, Et puis donc tout ça, on va dire que ça bouge pas, se déplace un tout petit peu, mais ça va à la périphérie créer des langues de glace. Mais il y a une grande masse, une calotte. Comme il y avait une calotte qui recouvrait tout le nord de l'Amérique du Nord, il y a de ça encore 20 000 ans. 4 km de glace sur Chicago, 2 km de glace à l'aplomb de New York, et quand on est dans Central Park, on en voit toutes les traces, et des blocs erratiques qui ont été déplacés par les glaciers au moment de la fonte.
Si on observe les roches de Central Park, c'est ça ?
Ah oui, tout à fait, oui.
On voit la trace des glaciers.
On voit la trace des glaciers, on voit les rayures laissées par les glaciers, les stries glaciaires, et puis on voit des gros blocs erratiques. Et quand on arrive en avion sur New York, c'est pas tout à fait notre sujet, mais on voit très très bien un pays glaciaire avec plein de lacs résiduels, des petits surcreusements glaciaires et plein de flaques d'eau.
Ça nous fait voyager, c'est
exactement,
super.
Exactement, ça fait rêver.
Pourquoi les glaciers vous passionnent tant, François-Michel ? Pourquoi vous
Parce que j'aime bien.
Vous êtes un chasseur de glaciers ?
Non, je suis pas un chasseur de glaciers.
Non,
il y a des glaciers.
C'est le désir qui vous pousse à les découvrir.
Voilà, disons à les arpenter, parce que d'abord c'est la seule façon d'accéder à la haute montagne, grosso modo, surtout dans les massifs un peu en altitude. Il faut passer par le glacier pour accéder aux voies d'escalade, donc on les fréquente. Et quand on les fréquente et qu'on est géologue d'autre part, eh bien on a envie de comprendre ce qui se passe, en quoi ce sont des agents géologiques importants.
Alors on dit qu'un glacier avance ou recule. Il fait quoi exactement ?
Jamais aucun glacier n'a reculé.
Ah bon, d'accord.
Voilà,
ma première bourde de la soirée. Il y en aura peut-être d'autres.
Il ne recule jamais, le glacier.
Il ne recule jamais, qu'on se le dise.
Ne vous inquiétez pas. Bienvenue dans la curiosité.
Un glacier, ça avance. Oui. Mais son front recule.
Ah, voilà.
C'est-à-dire que quand il avance, puisqu'il descend, c'est un fleuve de glace, il descend. Donc le glacier avance. Par contre, son front, s'il fond à la même vitesse qu'il avance, le front va être stable. S'il fond moins vite qu'il avance, il va avancer vers la vallée, comme ce fut le cas, par exemple, au petit âge glaciaire, et où les glaciers, il y a un siècle et demi, descendaient encore jusqu'à Chamonix, jusqu'au village des Bois. Et par contre, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si le glacier fond plus vite qu'il n'avance, eh bien, la langue terminale, le front de la langue terminale recule.
Donc, on a l'impression qu'il recule.
Mais bien sûr.
Il voulait avoir raison, Thomas.
Oui, on a un nerf.
Quand même, bon alors. Est-ce que c'est puissant, un glacier ? Est-ce que c'est dangereux, un glacier ? Quels sont les dangers d'un glacier? On vous le raconte dans un instant, les curieux.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
Ici Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce serait pas la musique de l'âge de glace, hein?
J'ai vu tous les épisodes.
Ouais, c'est bien, avec Scrat, il est tellement drôle. Ça. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a une très belle expo au musée Art Ludique à Paris sur les créateurs, les studios qui ont créé ce personnage de Scrat et ceux de l'âge de glace, entre autres. Pourquoi l'âge de glace? Parce que notre invité parcourt les glaciers de Haute-Savoie et du monde, géologue, guide de haute montagne. François Michel est aussi un vulgarisateur, on vient de s'en rendre compte, vous nous parlez merveilleusement bien de votre passion. Si Denis a dit tout à l'heure, un glacier, est-ce que c'est puissant? Est-ce que c'est dangereux? Première partie de la question, est-ce que c'est puissant?
C'est extraordinairement puissant. Vous imaginez un fleuve de glace, comme la mer de glace, qui est un petit glacier à l'échelle du monde, qui fait en moyenne quelques centaines de mètres d'épaisseur, 400 mètres à peu près dans le virage qu'il prend au pied de l'aiguille du Tacu. Et là, il va descendre à la vitesse d'environ 1 cm à l'heure, raboter, enchâssé à sa base, il y a des pierres, plus ou moins grosses, elles n'ont pas besoin d'être forcément très grosses, et qui vont raboter comme les lames d'un rabot, et qui attaquent, et qui surcreusent. Et ça, depuis quand même le nombre de glaciations qu'on a eues, beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, quelques millions d'années. Donc ça a façonné des morphologies. Donc c'est vraiment très très puissant. Ça, c'est la première idée.
Alors, est-ce que c'est dangereux ?
Alors, ça peut être dangereux.
Dangereux pour l'homme, j'entends.
Bien sûr, ouais, oui, il s'entend. Alors, qu'est-ce qui va être le danger du glacier ? Alors, le glacier, quand on est sur la mer de glace, en bas de la mer de glace, et qu'on la remonte doucement pour aller en direction d'un refuge et d'une course en haute montagne, au départ, on peut pas dire qu'il soit très dangereux. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, mais on voit la glace, elle est dégagée de la neige, et donc, en été, il s'entend, et on peut circuler dessus en faisant attention. Bon. Par contre, Après, quand on remonte plus loin dans les glaciers, là où les pentes s'accentuent, le glacier se déchire. Il se déchire en crevasses, il se déchire en sérac.
Et puis là,
alors c'est quoi un sérac? Eh bien, un sérac, vous savez, c'est un fromage blanc.
Ah oui.
Non, non, je dis pas de blague.
Je croyais que c'était une
je
blague.
Dis pas
je voyais votre œil qui brisait un peu. Je vais, oula.
Donc
je
il est en fromage blanc, le glacier, c'est
voilà,
ça.
Voilà, vous savez, quand un fromage blanc, donc un fromage frais, oui, sèche, eh bien, jadis, c'est toujours aujourd'hui, on parlait du fromage qui se serre et qui se crevasse. Mmh. Et donc, on appelait ça un sérac.
Okay.
Et donc, le premier à avoir parlé de ceci pour les glaciers, c'est Horace Bénédicte de Saussure, à la fin du XVIIIe siècle, dans son voyage sur les Alpes, et qui, voyant ces déchirures dans les glaciers, ces croisements de crevasses qui morcellent le glacier, en morceaux qui tombent d'ailleurs et qui s'éboulent, a comparé ça au fromage frais en train de sécher.
D'accord.
Et a nommé, pour la première fois, cet ensemble sérac.
Alors, quand on s'aventure comme ça sur un glacier, François-Michel, et qu'on croise des crevasses et des séracs, c'est quelque chose qui se repère à l'œil nu. J'allais dire la crevasse, oui, et encore, si tout
oui,
est blanc,
oui et
bleu.
Non, oui et non. Alors, donc, il y a deux choses différentes qui sont importantes. Le sérac, il peut chuter, s'ébouler, comme se fait. Alors, ça peut être des grands éboulements ou des petits. Et bien là, bien sûr, c'est très dangereux parce qu'on peut se trouver en dessous à ce moment-là et bien sûr, récupérer de gros blocs de glace qui peuvent être mortels, bien évidemment. Ça, c'est la première idée. Mais la crevasse, elle est surtout dangereuse quand on ne la voit pas. Et on ne la voit pas quand, c'est quand le glacier est recouvert de neige. Et quand il est recouvert de neige, il se forme au fur et à mesure des accumulations de neige, des ponts de neige au-dessus des déchirures, au-dessus des crevasses. Ces ponts, quand il y a beaucoup de neige, ne sont pas très dangereux, surtout si on est à ski. Cependant, il faut faire attention, en particulier quand on descend la vallée blanche. Et puis, petit à petit, quand la neige fond, eh bien, le pont, bien sûr, va devenir de plus en plus fin, jusqu'à un jour où il se déchirera, où il cédera, sous le poids de l'alpiniste qui circule. C'est pour ça qu'il est, pour nous, interdit de circuler. On s'interdit de circuler sur un glacier enneigé sans être encordé et avec, si possible, une corde tendue de façon à avoir un maximum de sécurité et d'être un petit peu espacés les uns des autres de 8 à 10 mètres.
François-Michel, vous publiez un dictionnaire illustré de géologie, Initiation aux sciences de la Terre. Alors, il n'y a pas que les glaciers, évidemment,
bien
dans ce livre, c'est chez Belin, mais nous, on a décidé de se concentrer sur les glaciers. Puis, alors, comme vous êtes un super pédagogue, ça nous donnera l'occasion de vous réinviter pour parler d'autres choses et d'autres thèmes du livre. Vous avez évoqué différentes périodes de l'histoire de France. Il y a eu une période où, vous disiez, le glacier descendait quasiment jusqu'à Chamonix. C'était il y a très longtemps, ça ?
Non, c'est il n'y a pas très longtemps. C'était à la fin du 19e siècle. Il descendait jusqu'au village des Bois, donc en amont de Chamonix, hein, à quelques kilomètres de Chamonix, et les glaciers étaient là. On appelle ça le petit âge glaciaire. Et donc, on a des gravures de l'époque qui sont très très belles, avec les glaciers bien dessinés et des dessins quelquefois un petit peu exagérés, mais c'en est d'autant plus romantique et beau, puisque c'est une période assez romantique par rapport à la description de la nature. Et donc, ils descendaient, oui, beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Par contre, ils étaient comme aujourd'hui, pratiquement, quelques siècles avant, à la fin du Moyen-Âge. Et cette embellie de climat de la fin du Moyen-Âge n'est sans doute pas sans rapport avec cette explosion des arts de la vie qui a donné naissance à la Renaissance.
Alors là, on a parlé de la petite glaciation, mais il y a eu une grande, 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 immense glaciation, et c'était il y a 20 000 ans.
Voilà, ça c'est la dernière.
Ça
c'est la dernière, qu'on appelle la glaciation du Würm. Hein, W-U-R-M, c'est le nom lié à une... Donc, à l'endroit où elle a été définie pour la première fois. Et pendant cette glaciation, donc les glaciers...
Ça concernait toute la Terre ?
Alors ça concernait bien sûr toute la Terre, mais beaucoup plus basculé sur l'Amérique du Nord, donc le Canada, le nord des États-Unis bien évidemment, que sur, bien sûr, le nord de l'Europe aussi, mais moins du côté sibérien. Donc elle était décentrée, cette glaciation. Et bien sûr, sur les montagnes, sur les Alpes, eh bien, les glaciers dans la vallée de Chamonix remplissaient la vallée sur presque 1000 mètres d'épaisseur. Et ces langues glaciaires qui descendaient du Rhône, de la vallée de Chamonix, de la Tarentaise et tout ça, eh bien, allaient quasiment jusqu'à Lyon. Donc là, on a eu, oui, tout ça. C'est pas une blague, puisqu'on en a des traces visibles.
Il y a 20 000 ans, donc une poussière à l'échelle de l'histoire de la planète et de l'humanité. On va continuer de raconter l'histoire de ces glaciers, alors, et de celui qui est le plus accessible quand même quand on arrive à Chamonix, c'est la mer de glace. On y va avec vous dans un instant.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
De
grands phénomènes géologiques participent de façon plus particulière et très active à la formation des paysages.
Comme un volcan devenu vieux.
Le volcanisme apporte à la surface d'importantes quantités de matériaux qui s'entassent et créent des reliefs.
Que la montagne est belle.
Les mouvements tectoniques bousculent les roches, chamboulent sans cesse l'épiderme terrestre.
La curiosité est un vilain défaut.
L'eau joue un rôle fondamental dans le modelage des paysages.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La terre, l'eau, la glace, c'est tout ce qui nous passionne dans la curiosité avec le géologue et guide de haute montagne François Michel. Vous nous accompagnez en arpente avec vous, comme vous faites depuis des années, des glaciers. Alors ces glaciers, vous nous avez expliqué comment ils se construisaient sur des millénaires. C'est cette neige compacte avec parfois un petit peu d'air à l'intérieur. Je me posais une question, ça a quelle couleur un glacier? Naturellement, si un enfant le dessinait, ou même nous, on le ferait blanc, mais il me semble que c'est plutôt bleu.
Alors quand on est dans, par exemple dans la vallée de Chamonix et qu'on est assez loin du glacier, à quelques kilomètres, et qu'on le regarde, il est blanc. Voire en fin d'été, plutôt grisaille, parce qu'il y a de la poussière qui s'est accumulée dessus et plus propre quand il est tout enneigé. Par contre, quand on va s'approcher, en fonction de l'âge de la glace, hein, si c'est une glace qui est relativement récente, de quelques mois, elle va être encore blanche. Par contre, dès qu'elle s'est tassée, qu'elle a chassé l'air, elle va réverbérer, si je puis dire, la lumière de façon différente. Pourquoi ? Parce que la glace va récupérer la lumière blanche. Alors, il faut savoir que la lumière blanche est une lumière multicolore. Hein, elle n'est pas blanche comme ça, elle est multicolore. Donc tout ce qui est rouge,
son spectre est
jaune, voilà,
c'est ça,
son
ouais.
spectre est multicolore. Donc tout ce qui est coloration qui sont dans les rouges, dans les verts, tout ça va pénétrer à l'intérieur de la matière et elle ne va plus renvoyer que des rayons bleus. Donc l'impression qu'elle va donner de bleu, qui dans une glace pure et propre en
Quelle
profondeur,
magie.
dans une crevasse, peut être parfaitement magnifique, oui.
Ah, c'est
un
une
bleu,
lumière,
très
c'est une lumière
très belle
magique.
Lumière. Très belle lumière.
Alors, j'ai eu la chance l'été dernier d'aller à la mer de glace et d'aller notamment, il y a un endroit où la glace est creusée, on peut aller à l'intérieur.
Dans la grotte, oui.
C'est la grotte,
dans
la grotte.
Ouais.
C'est complètement super. Magique.
C'est quoi cette histoire de grotte alors dans la mer de glace? Tiens, commençons par là.
Eh bien, c'est un attrait touristique. Oui. C'est-à-dire que les gens du train du Mont-en-Vert, de l'organisation, viennent donc du Mont-en-Vert, qui est l'ancien refuge, puisque c'est un hôtel qui est là et sur lequel jusqu'auquel on peut monter en train pour voir la mer de glace. Eh bien, sont mis à creuser une grotte au pied. Cette grotte, il faut la recreuser régulièrement tous les ans parce que justement,
le
glacier avance, ça circulait pour y remonter.
Mais le fond recule.
Oui, c'est ça.
Donc voilà, et qui est un attrait touristique sympathique, au pied du Mont-en-Vert.
C'est alors le plus c'est grand glacier de France.
La mer de oui, glace, c'est le plus grand glacier de France, d'une quinzaine de kilomètres de long, oui. Et l'hiver, si vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle la Vallée Blanche.
Oui,
parce que là, on part de l'Aiguille du Midi et on skie et on descend ce glacier à ski. Et quand on a la chance que ça soit bien enneigé, jusqu'à Chamonix.
Alors, quand on se balade là dans la mer de glace, l'été, on voit le niveau auquel il était il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, etc. On se dit, c'est la faute du réchauffement climatique. Le géologue dit quoi là-dessus?
Alors, le géologue dit que c'est pas tout à fait faux, mais qu'il faut moduler, bien évidemment, tout cela. Ce qui est clair, c'est que les glaciers ont gonflé, ils ont baissé pour être, il y a quelques siècles, dans l'état actuel d'aujourd'hui. Donc, ils ont beaucoup baissé à la fin du 19e siècle et au début du 20e, alors qu'on n'avait pas le taux de gaz carbonique d'aujourd'hui. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention au réchauffement climatique. Ne mélangeons pas les sujets. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui permet qu'est-ce qui joue sur ce gonflement, dégonflement et les périodes en question. Ce que l'on sait aussi, c'est que la fonte du glacier, grosso modo sur la mer de glace, elle est de l'ordre d'un mètre par an en épaisseur. Voilà. Mais cette année dernière, 2015...
Une fonte qu'on récupère jamais, c'est ça ?
Ah, pour l'instant, non.
Ouais, d'accord.
Et en 2015, il a fondu de 3 mètres. Donc c'est vrai que ça pose question, c'est bien évident. Alors qu'est-ce qui est le moteur de cela ? Le réchauffement, bien sûr, sans doute ça y participe, mais attention au réchauffement. Je vais vous faire très vite un petit calcul physique ou mathématique, je ne sais.
Oula, si, je sors mon si stylo, je prends des notes.
Si la température moyenne se réchauffe de moins 30, on va passer à moins 20.
Oui.
Donc, dans l'air, on va dissoudre partout, que ça soit à l'équateur ou partout, plus d'eau dans l'air, puisqu'il y aura un pouvoir de dissolution.
Voilà, plus de pluie.
Donc il y aura plus de pluie quand on est au-dessus de zéro, mais il y aura plus de neige quand on est en dessous de zéro.
Donc ça va reglacer.
Donc le réchauffement peut engendrer une accumulation de neige importante, ce qui sans doute se passerait au niveau du cœur de l'Antarctique.
Les séracs dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'ils se décrochent seulement l'été ?
Ah non, alors ils peuvent se décrocher en hiver, mais quand en hiver tout est gelé, tout est froid, les glaciers glissent moins vite, donc les chutes de sérac se passent quand même essentiellement, surtout quand elles sont dangereuses pour nous les alpinistes, en été.
Ça fait un bruit impressionnant.
Alors c'est vrai qu'en hiver, bon, sur le bas des glaciers des Bossons, ça peut péter bien sûr. Alors, ça fait un bruit très impressionnant.
La mer de glace, c'est un glacier qu'on peut voir à l'œil nu, mais il y a des glaciers un peu mystérieux qui se cachent sous de la pierre. On vous raconte leur histoire dans un instant.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et dans la curiosité, notre invité est géologue, mais aussi guide de haute montagne, et il a la bonne idée de faire une halte chez nous sur RTL pour nous raconter l'histoire des glaciers qui ont façonné nos paysages. Sidonie disait tout à l'heure, il y a des glaciers un peu mystérieux, c'est le terme qu'on peut employer. En tout cas, on les appelle des glaciers noirs. Pourquoi ?
Alors, pourquoi ? D'abord, le glacier noir, il y en a un qui porte ce nom et qui se trouve en Oisan, donc juste au pied des écrins, dans une combe d'ailleurs assez étroite. Et on l'appelle le glacier noir parce qu'il est noir. Et pourquoi il est noir ? Parce qu'il est entièrement couvert de cailloux. Pourquoi ? Parce qu'il est entouré par un cirque relativement étroit, avec des faces très raides, desquelles les pierres s'éboulent et les rochers s'éboulent en permanence et recouvrent le glacier. Ce qui est pour lui et pour la glace, j'allais dire intéressant, entre guillemets, parce qu'elle va fondre moins vite.
Ça l'isole ?
Puisque, oui, bien sûr, ça la protège du rayonnement solaire direct. Voilà. Donc, des glaciers noirs, il y en a plusieurs. On en a un beau dans le massif du Mont Blanc. Et bien sûr, on les oppose aux glaciers blancs qui sont les glaciers habituels où on voit la glace et où on... Donc, en été, ils ont cette couleur beaucoup plus claire.
Ils sont moins explorés, ces glaciers noirs, parce que moins faciles d'accès, ou moins glamour, pour employer un terme un peu déconnecté.
Alors, peut-être un peu moins glamour, parce que c'est moins joli. Mais enfin, on a l'habitude de les remonter pour partir en course. Mais alors, c'est vrai que quelqu'un qui veut voir un glacier, il ne va pas, en règle générale, moins que sur le glacier blanc, qui est à côté du glacier noir, dans le massif de l'Oisan, par exemple, et qui a une belle langue glaciaire qui rétrécit comme une peau de chagrin en ce moment.
Dans votre dictionnaire illustré de géologie que vous publiez chez Belin, François Michel, on découvre un troisième type de glacier, c'est le glacier rocheux. En quoi est-il encore différent du glacier noir, du glacier blanc ?
Alors là, c'est très particulier. Un glacier rocheux, c'est un éboulement de blocs emprisonné dans la glace. Donc l'ensemble va descendre très très lentement, où les morceaux, si je puis dire, vont rouler ou se déplacer les uns par rapport aux autres avec une relative fluidité de la glace. Donc ça avance très lentement et ça va déplacer de grandes masses de rochers qui se sont éboulés au préalable plus en amont et qui vont descendre très lentement vers la vallée. Alors il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai.
Il y en a un fameux ?
Il y a... Alors lequel ?
Le Tourmalet ?
Alors c'est un ancien, il n'y a plus pratiquement plus de glace, c'est vrai, mais toute cette masse-là a été acheminée par une masse de glace mélangée au bloc et va sur le fond de la vallée, dominant le col du Tourmalet, et bien donner ce paysage de chaos un peu particulier.
Et les coureurs du Tour de France, ils aimeraient bien un peu de la fraîcheur de l'ancien glacier fini. Quand ils l'escaladent, mais ça, c'est fini. Les glaciers, ils façonnent nos paysages ?
Ils ont façonné, ils continuent de façonner lentement aujourd'hui, ou de façon plus importante dans les régions glaciaires du monde, mais ils ont façonné, et en particulier, ils marquent les paysages de la forme de la vallée. Autant une vallée fluviale dans une dynamique est une vallée en V, dans une dynamique un peu tonique de montagne, dessine une sorte de V, on s'entend, ou bien un canyon étroit comme les gorges du Tarn ou du Verdon. Mais un glacier, lui, de par sa masse, il va s'implanter et il va petit à petit façonner une vallée en forme de U qu'on appelle une auge glaciaire.
C'est une forme donc, plus ronde, on va dire.
Voilà,
un
beaucoup
peu plus...
plus ronde, plus large. Mais ça, ce n'est pas le fait d'une seule glaciation, de la dernière, le Würm. C'est que les glaciers réempruntent à chaque fois les mêmes vallées et petit à petit, ils surcreusent, ils attaquent et ils façonnent.
Donc, mais ils creusent de plus en plus, en fait, avec le poids, la puissance dont
exactement.
Vous parliez tout à
l'heure. Voilà, et ça dessine un U majuscule.
On a parlé de la dernière glaciation, c'était il y a 20 000 ans, la prochaine. Ah
oui. La prochaine,
vous avez un pronostic ?
Eh bien, on imagine à peu près, il y a un pronostic exactement, géologique.
Je sors la doudoune tout de suite.
Non, du tout.
Non,
sur,
entre, si
40,
vivre,
entre 40 et 50 000 ans comme ordre de grandeur, si on suit toutes les périodes antérieures et leur rythme ou leur rythmicité.
J'aime bien votre compagnie, Sidonie, mais la curiosité dans 40 000 ans, non.
Oh, mais on n'aura pas fait le tour des sujets, je suis sûre. Moi, j'aurais pas fini vous rechambrer.
Il y en aura des nouveaux, forcément.
Il y a un mot que vous avez évoqué, François, c'est le cirque.
Tout à fait.
Le cirque, c'est un ancien...
Attendez, le cirque avec le clown.
Oui, c'est ça, voilà. Avec la bonnette du micro RTL. Le cirque qui entoure certains glaciers. Mais est-ce qu'un cirque peut être un glacier aussi ? Un cirque, d'ailleurs ?
Alors, le cirque, il n'entoure pas le glacier. Il est au départ du glacier. C'est dans le cirque que va s'accumuler ou que vont s'accumuler de grandes quantités de neige. Le cirque, c'est un endroit
circulaire. C'est le contenant, finalement.
C'est le contenant de l'amorce du glacier et de la fabrication de la glace. Ça, c'est important. Et plus le cirque est grand et plus il va s'accumuler de neige qui petit à petit se transforme en glace et qui part après sous forme de langue glaciaire. Donc pourquoi la mer de glace est-elle si longue ? C'est parce qu'il y a plusieurs cirques glaciaires qui viennent enrichir cette langue glaciaire de la mer de glace.
Et là, en mise en onde grâce à André Facetta, on a du cirque spectaculaire.
Voilà,
c'est une vanne.
Sa semaine de vacances lui a donné la patate. Il est en pleine forme.
André
Facetta, notre réalisateur.
J'ai encore une autre question. Alors, le cirque, donc on a compris que c'était le contenant. Et est-ce que certains lacs, par exemple, sont d'anciens glaciers ?
Alors,
par exemple, le lac d'Annecy.
Alors, des lacs sont d'anciens passages ou marquent le passage d'anciens glaciers. Et en particulier, il y a deux possibilités. Soit le glacier, en cheminant, a surcreusé la roche. En surcreusant la roche, il a fait un creux. Et ce creux, qu'on appelle un ombilique, dans les termes de géomorphologie, eh bien, ce creux peut retenir un lac. C'est le cas du lac d'Annecy. Et puis, l'autre possibilité, c'est que le glacier, en reculant, va abandonner une moraine, c'est-à-dire un tas de cailloux. Et ce tas de cailloux peut barrer la vallée et, en barrant la vallée, retenir un lac par derrière. Donc, il y a vraiment deux types de lacs glaciaires.
C'était passionnant. On vous remercie beaucoup,
génial.
François Michel, pour cette belle randonnée sur les glaciers de France et du monde. Je rappelle que pour prolonger ce voyage, d'autres histoires de terre, il y a votre dictionnaire illustré de géologie. C'était édité aux éditions Belin. Un chat dans la gorge.
Il faut le chasser.
Vous revenez.
Chassons ce chat.
Volontiers. Merci de m'avoir accueilli.
Et à très bientôt, François Michel. Merci.
Vous écoutez RTL.